Tout est une question de priorisation. Vous ne pouvez pas mener 3, 4, 5 combats de front. Il faut les prioriser, il faut les mener un par un et vous verrez, certains combats que vous aviez prévu de mener en priorité 6 vont se régler tout seuls quand vous serez sur la priorité 1 ou la 2.
Bonjour à tous, je suis Rémi Senlis et vous écoutez La Méthode des Patrons. Aujourd'hui, le travail prend une place importante dans nos vies. Vous êtes sûrement débordé par les mails ou vous avez du mal à trouver l'équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Vous êtes peut-être étudiant et vous voulez mener au mieux votre future carrière. Grâce à ce podcast, vous allez recevoir les conseils des plus grands dirigeants français afin de gérer et faire avancer au mieux votre carrière. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Guéniaud, cofondateur d'Ornicar. Après avoir conquis le marché de l'auto-école, il se lance désormais dans celui des assurances en proposant une offre notamment pour les jeunes. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Pour compléter cette introduction, ce que je vous propose, c'est un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre du tac au tac. Alors pour commencer, votre lieu de naissance.
Châteauroux, dans l'Indre.
Votre âge ?
J'ai 34 ans.
Les études que vous avez faites ?
J'ai fait un bac en ES, aujourd'hui je ne sais plus ce que c'est, à quoi ça correspond. Ensuite j'ai fait un BTS en commerce international et ensuite une école de commerce à Marseille.
Votre passion en dehors du travail ?
Une passion en dehors du travail, les vacances, évidemment ma famille, le ski, voilà.
Votre lieu de vacances justement ?
Évidemment, je l'ai assorti à mes passions, donc toutes mes vacances d'hiver sont passées au sport d'hiver et mes vacances d'été sont toutes passées en dessous d'Aix-en-Provence, le vrai sud.
La plus belle fiche de paye que vous ayez eue ?
La plus belle fiche de paye que j'ai eue, là on demande quoi ? On demande un montant ou on demande l'année
comme,
ou le mois ?
Comme vous voulez.
La plus belle fiche de paye, en montant, on doit être à 70 000 euros sur un mois.
Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, qu'on a pu répondre à ces quelques questions, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler organisation. Ça fait 10 ans maintenant que vous êtes à la tête d'Ornicar, l'entreprise. Votre parti pris est de ne pas passer trop de temps au bureau, dans la mesure du possible. Vous avez dit que votre travail ne prendrait jamais le pas sur votre vie personnelle. Je me demandais comment vous faites pour y parvenir concrètement.
Alors aujourd'hui, la technique ultime pour y parvenir, c'est que j'ai laissé ma place de CEO à un autre CEO qui s'appelle Philippe Mazot. Et donc parce que effectivement, Ornicar est en train de prendre le pas sur ma vie perso, puisque c'est une aventure qui est de plus en plus intense. Je n'arrivais plus à avoir cet équilibre vie pro-vie perso. Et donc, j'ai décidé de prendre un tout petit peu de recul pour me concentrer sur des sujets plus stratégiques pour Ornicar et relancer un autre projet entrepreneurial. Donc ça, c'est la dernière technique que j'ai trouvée pour garder cet équilibre vie pro-vie perso. Et sinon, c'est se fixer des règles. C'est aussi être humble, se dire que les choses peuvent avancer sans vous. Il faut s'entourer de bonnes personnes, que de gens meilleurs que vous. La meilleure trouvaille que j'ai faite pour Ornicar, ça a été mon associé historique Flavien. Une fois que vous avez la capacité à déléguer, les bonnes personnes qui vous entourent, la prise de conscience que vous n'êtes pas le centre de l'univers, que la boîte peut avancer sans vous, le soir vous êtes à 19h chez vous, vous prenez des week-ends et des vacances et vous consacrez une partie de votre vie importante à votre famille.
Mais quand vous dites que vous êtes retiré d'Ornicar, en tout cas que vous avez pris du recul, quand vous étiez encore le directeur général, c'était quoi concrètement ? Vous n'arriviez plus à prendre du temps pour votre famille ?
Oui, c'est quelque chose qui... En fait, c'est hyper intense. Entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel permanent. Vous avez toujours des urgences à gérer, vous avez toujours des décisions à prendre, etc. Et donc, effectivement, arrivé à la fin où c'était il y a 6 mois, ou l'été dernier, Ornicar me demandait beaucoup. J'avais beaucoup, beaucoup de pression des équipes en dessous de moi et j'étais plus en capacité de fournir ce que Ornicar me demandait. Et donc, il a fallu que je mette mon ego de côté. Et ça, c'est pour moi un des points clés d'un entrepreneur, d'un patron, d'un dirigeant, même d'un salarié, de tout le monde. C'est d'arriver à mettre son ego de côté pour dire, mais est-ce que je suis encore, compte tenu de ma volonté d'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que je suis encore la bonne personne pour pouvoir emmener Ornicar aux étapes d'après? C'est hyper confortable d'être CEO d'Ornicar. Vous êtes invité à plein d'endroits. Socialement, c'est vraiment un must. Néanmoins, si on met son ego de côté aujourd'hui, Ornicar avait besoin de quelqu'un d'autre que moi pour pouvoir l'emmener sur ses prochaines étapes. Je continue à accompagner le CEO et l'équipe d'Ornicar de façon active, mais de façon un peu plus reculée qu'avant.
Mais c'est vrai qu'en termes d'ego, ça ne doit pas être évident à gérer, parce que quand on a monté le projet et qu'on a été au bout...
Alors, j'ai justement pas été au bout, puisqu'il y a encore un long chemin pour Ornicar qui veut conquérir la planète. Mais effectivement, l'ego, c'est le principal ennemi. Vous êtes toujours tenté de céder aux sirènes de l'ego, parce qu'il y a plein de choses qui sont hyper confortables quand c'est l'ego qui prend les décisions à votre place, mais c'est certainement le pire ennemi qu'on puisse avoir. Toutes les décisions dictées par l'ego sont des mauvaises décisions. Et moi, c'est ce que je demande aux équipes d'Ornicar quand elles rejoignent l'aventure, c'est vous laissez votre ego en bas. Vous acceptez qu'on vous fasse des retours, des remarques, des critiques. Vous acceptez le fait d'avoir dit des bêtises. Vous apprenez à vous excuser. Et voilà, personne n'est parfait. Et moi, Ornicar, en tant que CEO, j'ai commis des centaines et des centaines et des centaines d'erreurs. Et je les ai toutes bien volontiers reconnues. L'ego, en général, vous met un voile et vous dit non, c'était la bonne solution, je m'entête. Et ça peut créer des problématiques managériales assez fortes.
Est-ce qu'il y a un exemple d'une erreur que vous avez faite à cause de l'ego?
Il y en a, elles sont principalement toutes drivées par l'ego. Si je prends les tout débuts d'Ornicar, on a mis 3 ans à obtenir notre autorisation pour être une auto-école. Tout ça parce qu'on a commencé à communiquer avant même d'être une auto-école. On a eu une opportunité dans les médias et donc on a saisi cette opportunité. On a été très maladroit. On a commencé avec un article qui disait avec Ornicar, on veut mettre fin aux rackets organisés des auto-écoles, mais on faisait la seconde de couverture d'un quotidien. Et à 24 ans, votre projet a 3 semaines, vous faites la seconde de couverture, vous dites mais c'est génial. Et donc ça, c'était une décision drivée uniquement par l'ego. Et après, on s'est pris procès sur procès parce que les auto-écoles traditionnelles se sont senties insultées à juste titre parce qu'on ne maîtrisait pas notre com et qu'on s'est fait guider par cet ego dévastateur.
Quel conseil vous donneriez aux personnes qui nous écoutent pour justement pas forcément aussi prendre de mauvaises décisions et en fait finalement quand même réussir à garder un peu un équilibre?
Tout est une question de priorisation. Vous ne pouvez pas mener 3, 4, 5 combats de front. C'est illusoire de penser que vous pouvez bien mener plusieurs combats de front. Il faut les prioriser, il faut les mener un par un et vous verrez, certains combats que vous aviez prévu de mener en priorité 6 vont se régler tout seuls quand vous serez sur la priorité 1 ou la 2. Ornicar, à un moment, on a traversé une période où j'avais 7 procès en même temps. J'avais des problématiques de financement, j'avais plus d'argent dans la trésorerie de la boîte, j'avais des salariés qui partaient, je m'étais disputé avec mon premier associé. Et finalement, quand vous êtes face à ça, vous vous dites « mais je ne peux pas gérer tout de front ». Donc j'ai classé les procès par ordre de gravité. Il y en a un où je risquais d'aller en prison, c'est celui-là qui va être ma priorité. L'autre où on risque des amendes, ce sera la priorité 2. C'est bête, mais on peut toujours prioriser. Et puis en fait, encore une fois, les choses se règlent d'elles-mêmes pour certaines choses. Mais la priorité, c'est de dire « ok ». Quel est l'ordre de passage, l'ordre de priorité des galères, des problèmes, des sujets que j'ai à traiter?
Est-ce que votre manière d'organiser, de vous organiser avec Ornicar, elle a évolué au cours de ce parcours lors de ces 10 dernières années?
Ah bah évidemment, au début, moi j'ai commencé Ornicar, j'avais 24 ans, j'avais quasiment pas d'expérience, une expérience de 12 mois. Savoir vraiment rien et donc je me noyais dans un verre d'eau et au bout d'un moment quand on vous met tellement d'eau dans le verre que vous dites j'ai pas le choix, il faut que je prenne la respiration, donc il faut que je travaille mon équilibre vie pro vie perso parce que sinon je vais exploser en vol. Moi je ne suis pas capable de dédier 100% de ma vie à mon entreprise. Mon entreprise ça n'est pas mon bébé, j'ai 3 enfants, ce sont mes enfants mais pas mon entreprise. Cette priorisation elle vient parce que vous n'avez pas le choix, donc j'ai énormément progressé et j'ai appris à systématiquement ordonner par priorité tous les sujets. Et là par exemple je suis en train de faire une maison à Marseille où je vais habiter et donc j'ai un chantier qui prend 18 mois On refait toute la maison. Et là, je me retrouve dans une situation où est-ce que je dois choisir les poignées de porte tout de suite ? Mais là, j'ai toujours pas de cloison. Ouais. J'ai quasiment pas de mur extérieur. Donc, les poignées, on verra plus tard. Et donc, je me sers énormément de mon ultra capacité à prioriser les sujets dans ma vie perso. Et donc, ça m'a fait énormément progresser ces 10 années chez Ornicard.
Et vous disiez qu'au début, ça pouvait être un peu compliqué. Est-ce que vous avez un exemple concret quand vous êtes justement noyé dans un verre d'eau ?
Ben, en fait, vous vous en sentez plus. Je sais pas s'il y a des exemples concrets, mais c'est moi, il arrivait des moments où j'avais juste oublié que j'avais tel meeting, oublié que j'avais telle interview, oublié que je devais répondre à tel sujet. Je priorisais tellement mal ou tellement pas que je ne me retrouvais plus du tout dans la gestion de mon emploi du temps et j'étais toujours en train de courir après un rendez-vous que soit j'avais raté, soit j'étais en retard. Et donc finalement, vous dégagez une très mauvaise image de vous. Quand vous avez oublié un meeting, c'est quand même vraiment limite. Quand vous en oubliez trois dans la même journée, vous dites c'est pas possible. En fait, où est-ce qu'elles étaient passées, ouais. les invitations, etc. Et voilà, tout ça, c'est des sujets qui au début me sont arrivés parce que je me dis mais j'ai un procès, il faut que je gère ça en priorité, c'est mon procès. Non, je suis entrepreneur, ma priorité c'est de trouver des clients, c'est de faire du chiffre d'affaires pour pouvoir payer les salaires, etc. Donc ça reste ma priorité numéro une. Les procès, je vais les gérer. Il y a des avocats qui sont là pour ça. Je ne suis pas avocat. Et il faut faire confiance à des personnes pour pouvoir déléguer.
Justement, les personnes qui sont autour de vous, c'est aussi l'entourage. Vous expliquez que l'une de vos qualités, c'est de savoir justement trouver les bonnes personnes. Comment vous faites pour trouver les bonnes personnes et quelles sont les qualités que vous cherchez ?
Bah, ça dépend des personnes qu'on cherche, mais effectivement, il faut déjà connaître ses forces et ses faiblesses. Moi, je suis un vendeur, mais je suis feignant. Je n'aime pas travailler. Je travaille pas assez, mais on se refait pas. Même à 34 ans, j'estime que je me refais plus. Et donc, ça sert à rien que je trouve un commercial, ça sert à rien que je trouve quelqu'un pour représenter la boîte. C'est mon rôle et je le fais mieux que les autres. En revanche, produire des documents, faire travailler les équipes, je suis un très mauvais manager. Ornicard, à la fin, avant de quitter le poste de CEO, j'avais plus qu'une personne en management sur une équipe de 270 personnes.
Okay.
Parce que je voyais bien que le sujet ne m'intéressait pas. J'étais pas bon, j'étais pas patient, pas extrêmement tolérant. Et donc, j'ai appris à dire, OK, il faut donc que je m'entoure de personnes qui aiment manager, qui sont bons dans le management.
Ouais.
Et le nouveau CEO est un expert en management. Et voilà, donc il faut se connaître. C'est con comme dicton, mais il faut se connaître soi-même, il faut connaître ce qu'on sait faire et surtout ce qu'on aime faire.
Vous disiez quand même qu'au début, vous aviez fait des erreurs de casting. Et du coup, quelles conséquences ça a eu et pourquoi vous êtes trompé ?
Je pense qu'au début, on est trop gentil. On n'ose pas se séparer de salariés, de membres de l'équipe, etc. Parce que derrière, il y a souvent une famille, un couple, des projets de vacances, des projets de vie, etc. Et donc, on prend trop de temps à se séparer des gens. On recrute mal parce qu'au début, c'est un métier de savoir recruter. Et aujourd'hui, je ne pense pas que j'excelle encore dans ce domaine-là. Et donc, les erreurs qu'on a faites, c'est dans le recrutement, mais c'est surtout... Parce qu'à la limite, se planter dans le recrutement, entre guillemets, c'est pas hyper grave. Mais mettre du temps à s'en rendre compte, ou encore pire, s'en rendre compte, mais mettre du temps à passer à l'action, ça, c'est très nocif pour l'entreprise. C'est nocif pour tout le monde, et même le salarié, finalement. Parce qu'il continue à progresser dans la boîte, mais vous savez pertinemment que ce ne sera pas la bonne personne. Mais pour être gentil, vous n'osez pas prendre la décision de vous en séparer. Il faut être beaucoup plus confortable avec le fait de se séparer de personnes dans nos équipes qui retrouvent un boulot parce qu'elles ont évidemment des compétences évidentes, mais qui ne correspondent pas aux attentes de la boîte. Pour moi, le dicton pour un entrepreneur, c'est trouver les bonnes personnes, les mettre au bon endroit et le faire au bon moment. Vous pouvez être la bonne personne au bon endroit, mais pas au bon moment. Vous pouvez être la bonne personne au bon endroit, enfin bref, vous avez compris. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment le rôle qu'on a. Et les erreurs coûtent cher.
Et justement, quand on doit se séparer d'un collaborateur, est-ce qu'il y a une bonne manière pour l'annoncer ou pour le faire ?
Non, il n'y a pas de bonne manière. Il faut être évidemment bienveillant, mais ça ne sert à rien de tourner autour du pot pendant 3 heures, quoi. Donc, on ne leur fait pas le coup de la montgolfière où il faut lâcher du lest. Mais clairement, on dit, écoute, aujourd'hui, moi, mon mandat, c'est de mener à bien. Moi, Benjamin, mon mandat, c'est de mener à bien la croissance d'Ornicard. Aujourd'hui, j'estime que tu n'es plus la bonne personne à ce poste-là, à ce moment-là. Tu as plein de qualités, mais elles ne sont pas accordées au momentum de la boîte. Donc, il faut qu'on sépare. Je conçois que ça remette en cause beaucoup de projets, que ça soit difficile à entendre. Mais évidemment, c'est les rendez-vous que je préfère le moins, ou que je déteste le plus.
C'est sûr que...
C'est le plus pénible dans le métier d'entrepreneur, ou de manager d'ailleurs, c'est de devoir se séparer des gens. Mais ça fait partie du job.
Dans l'entourage, c'est pas que l'entourage professionnel, il y a aussi les amis, la famille. Je me demandais, quand vous avez commencé à très bien gagner votre vie avec Ornicar, est-ce que ça a changé quelque chose autour de vous ?
Là, c'est l'ego encore, votre pire ennemi. Parce qu'effectivement, quand vous commencez à bien gagner votre vie, et moi, c'est la principale raison pour laquelle je suis entrepreneur. Je pense que c'est important d'avoir des drivers identifiés. Je sais que ce sujet, est assez tabou en France, mais moi, mon driver premier quand j'ai monté Ornicar, c'est l'argent. En fait, le driver premier, c'est la liberté. Mais la liberté, ça se finance. La liberté de partir en vacances où je veux, la liberté de partir en vacances quand je veux, avec ma famille. Voilà, c'est quelque chose qui a un coût. Et c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur. C'est que même si mes études étaient correctes, je n'aurais pas pu avoir le train de vie que je voulais avoir.
Ouais.
Et donc, c'est mon driver. Voilà. Les gens disent, pourquoi tu as été entrepreneur ? Pour gagner de l'argent. Voilà. Et je n'ai pas honte de le dire. Et effectivement, pour répondre à la question, il arrive un moment où ça peut effectivement créer une différence avec mes proches. Mais déjà, j'ai certains proches qui gagnent aussi extrêmement bien leur vie, d'autres moins. Le tout étant de rester, enfin, de ne pas changer. L'argent ne doit pas transformer quelqu'un. Et puis, il faut juste prendre en compte le fait que tout le monde n'a pas les mêmes trains de vie que vous. Et c'est super. Et c'est pas pour ça qu'on est amis avec une personne ou avec une autre. Et aujourd'hui, j'ai changé absolument aucun de mes potes depuis que Ornicar fonctionne. Non. Et j'en ai absolument aucune envie.
Ouais.
Voilà, je fais attention à ce que ça pourrisse pas l'éducation de mes enfants, des choses comme ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux quitter Paris. J'habite à Paris dans le 16e arrondissement, c'est super, c'est très confortable, c'est pas forcément la vraie vie, et donc d'où mon envie de partir à Marseille, où c'est peut-être un peu plus la vraie vie que dans le 16e à Paris.
Il y a un autre aspect dont on va parler, c'est la communication. C'est une partie aussi qui fait, c'est une partie importante de votre travail maintenant, comme c'est un des sujets que vous gérez avec Ornicar. Vous êtes plutôt souvent dans les médias et plutôt bon dans les médias. Comment vous avez fait pour être bon dans vos prises de parole ?
J'ai commencé par être mauvais. Vous pouvez en parler à un ancien présentateur BFM, je sais plus si c'est BFM ou BFM Business, Stéphane Soumier. Au début, il ne voulait plus me recevoir sur les plateaux parce que je bégayais, j'étais rouge et je tremblais, j'avais la bouche pâteuse. Et il dit ah « non, je préfère plutôt l'associer que lui parce que la dernière fois, il m'a fait fuir tous mes auditeurs. » Bon, il ne me l'a jamais dit en vrai, mais je sais que c'était ça. Et il faut, comme tout, ça se travaille. Et il faut dépasser cette pseudo-timidité. Il faut connaître bien son sujet. Et en fait... Ce qui nous fait planter, enfin moi, ce qui me faisait planter, c'est que je me mettais des barrières. Je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Aujourd'hui, il faut écouter mes interviews, mes podcasts, etc. Je n'ai aucun tabou. Les gens me disent parfois, un jour, ça te jouera des tours de dire que tu fais ça pour l'argent, de dire que tu es comme ci, que tu es comme ça. Tu surjoues le fait que tu es transparent, cash, etc. Un jour, ça te jouera des tours. Ben, je m'en fous. Au moins, je stresse pas. Je dis ce que je pense et je mets pas de filtre et ça me permet d'être meilleur vendeur.
En 2021, sur un autre aspect sur la communication, vous avez fait plusieurs levées de fonds. En 2021, donc il y en a une avec Ornicar de 100 millions d'euros. En 2023, là plus récemment, il y en a une de 4 millions d'euros pour Scarlett. C'est quoi votre méthode pour convaincre lors des levées de fonds ?
Déjà, c'est tout ce que j'aime. En fait, la négociation. Je suis un vendeur. J'arrive dans mon... Je suis un poisson dans l'eau. Quoi. Une négociation avec des fonds d'investissement, je les connais tous. Je les connais par cœur, je sais comment ils fonctionnent, je sais, je sais quel est leur processus de décision. Ils jouent contre moi, mais je connais toutes leurs cartes. Parce que je les ai pratiquées 4 fois pour Ornicar, une fois pour Scarlett. Et donc, c'est quelque chose qui m'amuse. Et ça, je l'ai appris. Il y en a où j'ai échoué à des levées de fonds. Par exemple, Ornicar, on a essayé de faire une série B, donc... En gros, on a fait première levée de 1,5 million, puis une levée de 10 millions. Et la levée de 10 millions, on l'avait tenté un an plus tôt et on l'avait ratée. Et je sais pourquoi je l'ai ratée, etc. Donc,
Et qu'est-ce que vous tirez justement de cette expérience et de ces différentes levées de fonds pour réussir à convaincre finalement ? Ça peut être pour une levée de fonds, mais ça peut être aussi pour vendre un projet quand on est en entreprise ou pour même se vendre soi dans un entretien.
Et ben, c'est de la négociation. Et pour moi, il n'y a qu'une règle dans la négociation. C'est il ne faut pas avoir peur de perdre. Et vous pourrez en parler à toutes les personnes avec qui j'ai été confronté pour négocier. Et je le suis un peu chaque jour, surtout en ce moment. Je n'ai jamais peur de perdre. Et même une levée de fonds à 100 millions d'euros, bah, c'est pas grave si ça se fait pas. Je le ferai pas aux conditions où j'ai pas envie de le faire. Et je retourne à table systématiquement. Mais je le retourne sincèrement. Si les personnes écoutent et me disent, bah, un jour je me trouve en face de lui, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Et moi, j'ai absolument aucun problème avec le fait de perdre parce que j'ai pas d'ego. Donc, perdre une négociation ne m'embête pas. Et je ne bluffe pas quand je dis que je peux tout arrêter. Une levée de fonds, ça prend 6 mois. Tout le monde a bossé, des avocats, des leveurs de fonds, les équipes, les fonds en face, etc. S'il y a une clause qui ne me plaît pas dans le pacte et qu'on est la veille de la signature, j'appelle tout le monde, je dis, moi, demain, je ne viendrai pas. Et sans moi, il n'y aura pas de signature, il n'y aura pas de levée de fonds. Tout le monde a bossé pour rien, ce n'est pas grave. Je ne suis pas confortable avec cette clause. Un point, c'est tout.
Qu'est-ce que ça change dans le rapport de force ?
Ben, ça change, c'est un... Faut voir si en face ils sont prêts à perdre. Je sais qu'ils sont pas prêts à perdre. Ils ont fait bosser leur équipe, ils ont des frais d'avocat qu'ils ont engagés, etc. Et c'est des clauses. Alors, je dis pas triplez-moi la valorisation, sinon j'arrête. Ça marchera pas. Mais des choses que je trouve légitimes, je me battrai jusqu'au bout. Et ça change le fait, encore une fois, que j'ai pas de questions à me poser. De toute façon, je sais que j'irai jusqu'au bout de ma menace entre guillemets de renverser la table. Et je ne fais pas de bluff. Je ne fais pas de bluff quand je vends Ornicard, je ne fais pas de bluff quand je suis dans les médias, je ne fais pas de bluff quand je négocie parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout, ce n'est pas un bluff. Et encore une fois, je ne suis pas assez intelligent pour tricher, donc il n'y a pas de problème. Venez débattre avec moi ou venez essayer de négocier avec moi, mais il faut que vous aussi vous soyez vraiment prêt à perdre.
Et pour une personne qui voudrait justement peut-être proposer un projet, convaincre, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ?
Alors, il faut pitcher son projet à tout le monde. Il faut le présenter à des centaines et des centaines et des centaines de personnes. J'ai vu trop d'entrepreneurs qui me disent « Je ne peux pas t'en dire plus parce que l'idée est extraordinaire et j'ai peur de me la faire piquer. » Ceux-là, je peux signer de mon sang qu'ils ne feront rien. S'ils pensent que c'est l'idée qui est extraordinaire et qu'avec autant de milliards de personnes sur la planète, personne n'a eu son idée avant, c'est déjà qu'il a un ego surdimensionné. Donc, pitchez votre boîte, pitchez votre projet, pitchez votre idée parce qu'il y a au moins 1000 personnes qui ont eu la même idée avant vous et que comme l'idée ne fait rien, c'est l'exécution qui vaut. De toute façon, même si vous avez la même idée que quelqu'un d'autre, c'est la façon dont vous allez exécuter qui va faire que ça fonctionne. BlaBlaCar, Facebook, Uber, toutes ces boîtes-là, ce sont des remakes d'idées qui ont déjà été testées avant. Ce n'est pas les pionniers de cette idée-là, ils l'ont juste mieux exécutée que les autres.
Vous avez dit que maintenant aussi, vous ne voyez que les côtés positifs, que les bonnes nouvelles. Ce n'était pas forcément le cas avant. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé et comment vous avez fait pour changer cette vision des choses ?
Je suis un vendeur. Je dois vendre Ornicard à tout le monde. Je dois le vendre à l'extérieur, mais je dois le vendre aussi à l'intérieur. Et quand vous traversez des zones de turbulence, Ornicard, on est à 23 procès, et que par transparence, vous en parlez à chaque fois avec vos équipes, avec vos investisseurs, vos actionnaires, etc., vous devez quand même de le présenter sous un bon angle. Et donc, j'ai développé, à l'aide de différentes galères qu'on a pu traverser, un espèce d'optimisme un peu niais, naïf,
ouais,
où je suis capable de transformer n'importe quelle mauvaise nouvelle en extrêmement bonne nouvelle. Alors, il me faut certainement, plus la nouvelle est mauvaise, plus il me faut un temps pour la transformer. Mais aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis un vendeur, donc je n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Vous allez acheter une voiture, on dit, bon, elle est bien cette voiture, mais les freins, c'est pas ça. Non, je vais pas vous l'acheter. Moi, j'annonce tout, mais en revanche, tout sous un prisme d'opportunité. Et aujourd'hui, je suis fait comme ça, et c'est ma façon de voir les choses, c'est plus confortable, et c'est comme ça que j'embarque des centaines de personnes, des équipes, que ce soit en interne ou en externe, pour lever des fonds, il faut aussi faire ça, cette capacité à vendre. Et oui, il y a des mauvaises nouvelles quand vous êtes en train de lever de fonds. Vous avez une période qui dure 6 mois pour les convaincre des investisseurs. Que des bonnes nouvelles pendant 6 mois, ça n'existe pas dans la vie d'un entrepreneur. Ouais. Donc, il faut dire, OK, j'ai cette mauvaise nouvelle, mais regardez l'opportunité que ça dégage derrière. Voilà, espèce de capacité à être un optimiste sans fin.
Ouais, et ça peut aussi être utile pour les personnes qui travaillent en entreprise. C'est quoi ? C'est positiver en permanence, c'est ça ? Voir toujours le positif ?
Exactement. Mais en fait, chacun doit le faire. Hein. En fait, ça dépend du rôle de chacun. Moi, mon rôle, c'est d'absorber la mauvaise nouvelle, de la filtrer et d'en sortir une bonne nouvelle. Moi, heureusement que mes équipes, elles me remontent des mauvaises nouvelles parce que si elles viennent à chaque fois qu'on fait des points, elles me disent « Non, non, mais tout va bien. Bah, » Là, c'est compliqué. Donc, il ne faut pas cacher les mauvaises nouvelles. Mais le rôle de celui qui doit embarquer les équipes, c'est transformer des mauvaises nouvelles en opportunités.
Il y a un autre aspect aussi, au début d'Ornicard, vous avez mis 3 ans avant d'avoir un agrément. Ça a pris beaucoup de temps, vous avez dû être très patient alors que vous ne l'êtes pas forcément. Comment on fait justement pour persister dans un projet qu'on mène ?
C'est bien enseigné. Effectivement, je suis certainement la personne la plus impatiente que je connaisse. Mais, et tout le monde me demande comment tu as fait pour attendre, on va juste se remettre dans le contexte, je n'ai rien à perdre à l'époque. Je suis un entrepreneur de 24 à 27 ans, date à laquelle j'ai eu l'agrément, on a eu l'agrément. Et donc, j'ai levé des fonds, je suis payé, j'ai un salaire, certainement un meilleur salaire que si j'étais salarié.
Ouais.
Donc, je joue avec l'argent d'autres personnes, les fonds d'investissement qu'on investit dans Ornicar. J'apprends énormément, je me fais un réseau, c'est passionnant. Il n'y a aucune raison que j'arrête. Qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Tant que j'ai de quoi me payer pour pouvoir me nourrir, me loger, etc.,
ouais.
Je continue. Parce que sur le marché, je vaux moins que ça en salarié et j'apprendrai certainement beaucoup moins. Donc, il n'y a aucune raison logique pour que je me couche. Donc bah voilà, tant qu'il y a des sous, je continue.
Mais c'est quand même, moralement, ça peut être un peu difficile parce que oui. ça a été long quand même.
C'est l'ascenseur émotionnel.
Ouais.
Et là, c'est là où l'équilibre vie pro-vie perso prend, prend toute son importance. Le soir, moi j'avais besoin de vider mon sac à ma femme, vider mon sac à mes potes, vider mon sac à ma famille, qui avait certainement, qui en avait marre, mais moi ça me faisait du bien, une espèce de thérapie familiale ou des proches qui me permettait de lâcher un peu la soupape, parce qu'avec eux, je pouvais me permettre de lâcher les mauvaises nouvelles sans filtre.
Ouais.
Et c'est vrai que ça fait du bien.
Oui, c'est sûr, ça fait du bien pour soi. Après, des fois, pour l'entourage, ça peut être.
Oui. Mais il y avait encore une fois, j'allais pas finir en prison.
Ouais.
Et voilà, et les enjeux étaient pas colossaux, quoi.
Alors c'est maintenant le moment où on fait un petit retour en arrière sur la partie où vous étiez plus jeune. Vous avez travaillé avant chez SFR, ensuite vous avez travaillé dans la fibre optique comme business developer avant de lancer l'aventure Ornicar. Lors de ce parcours, c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? S'il y en a un qui se détache.
Oui, il y en a un. Il y en a un qui m'a donné un conseil au début d'Ornicar. Ça faisait un an qu'on galérait. Et il m'avait dit un conseil que je n'ai pas suivi tout de suite puis que j'ai suivi après. C'est trop bon, trop con. Arrête d'être gentil et menace les gens, attaque les gens, sois agressif. On ne concède rien aux gentils. Il faut montrer les crocs, surtout dans des sujets de lobby, d'administration, politique. Les gentils, ils patientent. Les méchants, on doit traiter leur cas.
Pour l'agrément, justement.
Pour l'agrément, exactement. Et donc, il ne faut pas être trop gentil, sinon les gens en profitent et disent bah, celui-là, ça devient. La personne en face va devoir prioriser. Il va avoir des problèmes. Moi, je suis un de ces problèmes. Mais si je suis un gentil problème, il va me prioriser en priorité 6.
Ouais.
Et les méchants problèmes, il va les prioriser en priorité 1. Et donc, il faut faire en sorte d'être la priorité 1 de tous les sujets urgents qu'on a à gérer. Et aujourd'hui, j'ai maintenant développé une certaine capacité à être désagréable et méchant quand je veux obtenir quelque chose.
Et à l'inverse, une autre thématique, quel conseil vous seriez-vous donné en tant que futur patron quand vous étiez plus jeune, étudiant à Kedge Marseille, il me semble ?
Ne te renseigne pas trop sur les galères que tu vas avoir, parce que sinon tu n'iras jamais. Comme je suis un peu flemmard et feignant, si j'avais su toutes les galères auxquelles j'allais être confronté, je ne sais pas si j'y serais allé. Et là aussi, une forme de naïveté salvatrice qui a été importante. Et je pense qu'un entrepreneur, donc, il doit être optimiste et il doit avoir beaucoup plus de conviction que de connaissances. Si on a trop de connaissances, on n'y va pas. Voilà, c'est une conviction aujourd'hui que je porte toujours.
Quel conseil donneriez-vous aussi aux plus jeunes qui commencent leur carrière, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans des entreprises ?
En tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est une aventure extraordinaire. Je pense qu'on apprend énormément quand on fait les choses par soi-même. Et au début, on n'a pas le choix que de produire et de faire les choses par soi-même. Que souvent, l'argument que j'entends, c'est les financements. Ah, mais je n'ai pas les financements pour. Je pense que la France est un formidable pays pour entreprendre. Les démarches administratives sont extrêmement simples. Aller en Allemagne, essayer de monter une boîte, après on en reparle. Donc toute personne qui critique le système français pour créer des boîtes, je pense que c'est faux et c'est mal. Pareil, se séparer de personnes, on me dit ah, on ne peut pas virer en France, etc. Je ne suis pas d'accord. On passe son temps à critiquer toujours tout, mais la France est un formidable pays pour entreprendre. Vous avez des aides, vous avez un organisme qui s'appelle la BPI qui finance des projets en subvention au début, qui est là pour vous mettre le premier pied à l'étrier. Et voilà, il n'y a pas vraiment de sujet de financement si l'idée est un peu de profondeur. Si votre idée est complètement loufoque, c'est faire des autocollants en forme de crotte de chien, ou a priori ça marchera pas. Mais sûr. Il faut avoir un tout petit peu de profondeur dans son idée, et aujourd'hui des financements, il y en a énormément. Le système de fiscal incite les personnes qui ont de l'argent à investir dans des projets, dans de l'économie réelle. Donc surtout lancez-vous, et ne prenez pas ni l'idée ni l'argent comme excuse pour ne pas y aller.
Pour finir, je vais vous demander quel est le livre qui vous a aidé pendant votre parcours, s'il y en a un.
Je ne lis pas. je ne lis jamais de livres. J'ai pas le temps. J'ai une boîte, trois enfants, une femme et des envies de vacances. Et donc, je ne lis pas. Donc, il n'y a aucun livre qui m'a inspiré. Mais je me suis associé avec des gens qui lisent beaucoup.
Et est-ce qu'il y a peut-être autre chose qui vous a inspiré pendant votre carrière ? Un film ou autre chose.
Non, ce qui m'inspire, c'est moi, je passe mon temps, et d'ailleurs ça se voit, à aller déjeuner avec d'autres entrepreneurs. Et je passe mon temps à rencontrer des gens en one-to-one. Je déteste les événements, les petites sauteries d'entrepreneurs ou les réseaux où on est sans entrepreneurs autour d'une coupe de champagne. Moi, je suis sur mon téléphone dans un canapé et je déguste le champagne, mais je ne vais pas parler aux autres. Moi, ce que j'aime, c'est les one-to-one autour d'un déjeuner où la personne est bloquée pendant une heure en face de nous. Et là, je le bombarde de questions sur pourquoi, comment t'as fait, voilà mon problème, etc. Et je pense que c'est ce qui est le plus enrichissant, c'est les one-to-one avec des gens qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous. Et si vous êtes salarié, moi, ce que je conseille aux salariés des boîtes, de mes boîtes, c'est aller voir votre homologue chez un concurrent, chez une boîte qui nous ressemble. Allez discuter de vos problématiques, et on apprend 100 fois plus grâce à l'expérience des autres que attendre de se faire sa propre expérience.
Une phrase aussi ou une citation qui vous guide ?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais la répéter parce que c'est celle qui dicte beaucoup de choses. L'idée ne vaut rien, c'est l'exécution qui fait tout. Et je pense qu'à force de la dire, je vais me lancer un challenge. Ma prochaine boîte, je demanderai à des gens random de me donner une idée, peu importe l'idée, même si elle est toute pourrie, et j'en ferai une boîte qui vaudra plusieurs millions d'euros parce que je l'exécuterai à ma façon. Et voilà. Et donc, c'est vraiment une conviction très forte, c'est il faut exécuter. Exécuter, c'est avancer quoi qu'il arrive. Des petits pas, c'est pas important, mais il faut avancer. Ouais. Peu importe la puissance de l'idée. On n'est pas obligé d'inventer Facebook ou d'inventer Amazon pour se dire qu'on a une idée de fou et d'entrepreneur. Non. L'idée, c'est même pas 5% de la réussite d'une boîte.
L'ultime question, Benjamin Guignot, c'est quoi un patron pour vous ?
Un patron, forcément, je vais dire quelque chose qui m'intéresse, qui me concerne. Pour moi, un patron, c'est quelqu'un qui vient donner une direction à une boîte et faire en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle qui vienne entraver la direction qu'on veut prendre. Et donc moi, je compare souvent Ornicard à une voiture. J'ai un associé qui est au volant de la voiture et qui fait en sorte que le moteur fonctionne bien, qui fait les pédales, le levier de vitesse. Et moi, je suis devant avec une espèce de chasse-neige et je fais en sorte qu'il n'y ait rien qui gêne la route. Et voilà. Et aujourd'hui, pour moi, le patron, il doit effectivement être en train de déblayer la route pour être certain que derrière les équipes, parce que finalement c'est que l'association de talents d'une équipe qu'on a mis au service d'un projet qui fait qu'une boîte fonctionne ou pas. Et comme une fois, moi je ne produis rien, donc je suis là en train de faire en sorte qu'il n'y ait aucun obstacle pour que la boîte se développe le plus rapidement possible.
Merci beaucoup Benjamin Guignot.
Merci.
Et merci à vous d'avoir écouté La Méthode des Patrons. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le partager. À très vite.